Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On a les connaissances maintenant qui sont là, mais aussi faut-il aller les chercher pour qu'ils trouvent son sommeil tout seul. En fait, on aime bien, on a une passion en France, c'est de faire en sorte que l'enfant s'endorme seul et dorme seul. C'est un biais culturel. Il y a un décalage énorme entre les laboratoires de recherche, la connaissance scientifique qu'on a sur l'enfant aujourd'hui et les connaissances sur le terrain.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
Qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode un peu différent dans lequel nous allons aborder la question des fausses croyances autour de l'éducation et de la petite enfance. Nous sommes tous empreints de croyances, d'idées concernant ce qui doit être fait. Donner la tétine ou non, apprendre la politesse aux enfants, ne pas leur donner de mauvaises habitudes dès le plus jeune âge, ne pas les porter trop, les laisser pleurer pour qu'ils fassent leurs poumons, sont encore des choses qu'on peut entendre. Mais qu'en est-il réellement ? Que nous dit la science par rapport à ces questions ? Et comment pouvons-nous construire des manières de faire, des attitudes plus ajustées aux besoins des enfants ? Apprendre à se décaler et remettre en question ses croyances, ses certitudes, n'est pas toujours simple. Et pour aborder toutes ces questions, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Héloïse Junier. Bonjour Héloïse.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes docteur en psychologie, psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice, conférencière, journaliste scientifique, autrice de nombreux ouvrages. Alors je vais en citer quelques-uns. Donc il y a, je crois, votre tout premier qui était le manuel de survie des parents, des clés pour affronter toutes les situations de 0 à 6 ans. Chez Interédition. Ensuite, nous avons le guide très pratique pour les pros de la petite enfance aux éditions Duno, une BD qui est remarquable, Ma vie de bébé de 0 à 3 ans, les mystères de son petit cerveau en développement, Le sommeil du jeune enfant pour les parents qui ne font pas encore leur nuit, pour ou contre les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances scientifiques. Et puis, vous avez sorti aussi toute une collection pour enfants, les histoires du calme. Donc, on a Un nuage pour m'endormir, Ma chère tétine, Mon immense petite sœur, Ma colère de feu, et le tout dernier qui sort dans quelques jours, Ma grande sensibilité et moi.
Absolument.
Vous avez également fondé la communauté Facebook La Psy Contre-Attaque. On peut vous retrouver sur Instagram et suivre, vous partagez énormément d'informations autour de l'éducation. Et puis, vous êtes déjà venu dans le podcast, on peut vous retrouver dans l'épisode 53 où on avait parlé du jeu chez l'enfant. Alors, tout d'abord, Héloïse, qu'est-ce que c'est qu'une croyance ?
Alors, une croyance, c'est une vague question et très pertinente. À mon sens, on pourrait définir de manière différente, mais à mon sens, c'est une connaissance qu'on pense vraie. Et souvent, cette croyance, elle est héritée de quelque part. Ça peut être culturel, ça peut être une connaissance qu'on pense vraie parce que nos parents pensaient qu'elle était vraie, parce que nos amis pensent qu'elle est vraie. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est créé dans l'environnement de la personne, mais qui n'est pas basé sur une preuve tangible.
Tandis qu'on va avoir le savoir qui, lui, serait basé sur une preuve.
Oui, en fait, c'est marrant parce que j'aime bien souvent en formation, même avec les familles, parler de la pyramide du niveau de preuve. Je ne sais pas si ça vous parle.
Non.
Et en fait, tout en bas, le niveau de preuve qu'on appelle zéro, c'est tout ce qui est croyance, tout ce qui est héritage un peu culturel, tout ce qui est pensée un peu traditionnelle, tout ce qui est l'avis de la belle-mère, je sais pas, le point de vue de la belle-sœur. Enfin, voilà, c'est vraiment des avis qui ne reposent sur rien. C'est vraiment le niveau de preuve zéro, en fait. Et plus on avance, on monte dans la pyramide, plus la connaissance perd son côté croyance, mais devient plus un savoir. Et en fait, tout en haut de la pyramide, le nec plus ultra pour les scientifiques, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses. Les méta-analyses, c'est quoi? Ce sont des connaissances qui sont le fruit, en fait, d'une synthèse de plusieurs recherches scientifiques avec des bonnes méthodologies. Et du coup, on arrive là à un niveau de connaissance qui s'écarte diamétralement de la croyance et qui devient vraiment de la connaissance scientifique. Du savoir brut.
Et du coup, en tant que parent, justement, par rapport à toutes les questions éducatives qu'on peut se poser, comment on peut passer de la croyance à ce savoir? Comment, parce que là, vous parliez, en effet, la belle-sœur, la grand-mère, ou parfois même le médecin qui va dire quelque chose. Comment on peut différencier, finalement, ce qui serait de l'ordre d'une croyance et ce qui serait de l'ordre d'un savoir?
Mais ça, c'est hyper compliqué. C'est très, très compliqué. Parce qu'effectivement, les professionnels, eux aussi, sont dans la croyance. Et moi aussi, j'en ai plein des croyances. En fait, on a tous plein de croyances. C'est-à-dire qu'il faut travailler dessus pour arriver à un niveau de connaissance important. Mais c'est très difficile de faire le tri. Alors, généralement, je conseille aux familles, je dis, voilà, quand quelqu'un écrit quelque chose, déjà, j'avoue peut-être sur sa formation, quelle formation il a. Mais pareil, c'est pas un garde-fou suffisant. Parce qu'il y a des gens qui ont des formations suffisantes et pourtant qui sont dans la croyance aussi. Cette connaissance qui est diffusée dans cet article-là, est-ce qu'il y a une référence biographique? Ça peut être déjà un premier garde-fou. Est-ce qu'elle se pose sur une référence, une recherche, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui pense que, ou qui a une intuition que? Et pareil, c'est une recherche. Alors, les parents vont pas voir parce que, généralement, c'est pas leur domaine d'expertise et puis c'est pas forcément rigolo d'aller voir une recherche scientifique, mais la recherche, comment elle s'est basée? Elle s'est basée sur 5 sujets? Ou est-ce que c'est basé sur une cohorte de 2000 personnes? Pareil, il y a plein de niveaux, en fait, de savoir qui les rend plus ou moins tangibles, en fait. Mais c'est très compliqué de faire le tri. Et moi-même, je me perds tout le temps.
Ça m'évoque plein de parents qui me disent, mais comment je peux faire confiance, parfois même à mon médecin, sur ce qu'il va me dire, alors que parfois le parent sent qu'il y a quelque chose qui peut être dissonant, ou qui n'est pas en accord avec ce que lui souhaite faire, ou le positionnement qu'il souhaite adopter auprès de son enfant. Ça me pose la question, mais à qui je fais confiance? Et est-ce qu'il y a un moment donné, finalement, même si j'ai pas la preuve, il faut aussi acter quelque chose. Comment je peux acter finalement de la manière la plus juste?
Ouais, je pense que c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que du moment, c'est vrai que beaucoup de familles me disent ça, enfin, du moment qu'il y a une dissonance, du moment qu'on se sent pas, du moment qu'on sent pas le conseil, pour moi, il faut toujours faire des avis croisés. On regarde, on s'informe, par exemple, enfin, ça pourrait être, enfin, c'est le cas tous les jours qu'on me dit, hein, ça pourrait être un médecin, par exemple, un pédiatre, ça c'est vraiment le plus classique qui conseille aux parents, genre pour que l'enfant dorme la nuit, de laisser pleurer. Voilà, ça c'est un truc, mais c'est un conseil qu'on répète souvent dans notre pays. Souvent, les parents sont pas à l'aise avec ça, en fait. Ils me disent, voilà, je suis pas à l'aise, j'ai quand même essayé de le faire, mais c'était pas bien, j'avais le bide complètement retourné, j'étais en stress, j'avais envie de pleurer. Voilà, s'il y a une dissonance, si vous ne sentez pas en accord avec ce conseil-là, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, on n'est pas fait pour laisser le bébé pleurer, donc on essaie de croiser l'information avec d'autres sources d'information.
Donc finalement, pour se dire que c'est bon, en tant que parent, quand on reçoit une information, c'est déjà qu'est-ce qu'elle nous fait vivre à nous, et ensuite aller compléter l'information qu'on reçoit.
Ouais, il faut avoir le temps pour faire ça aussi. Imaginez, chaque truc qu'on nous dit, enfin, on pourrait pas, genre, on nous fait ordonnance, je sais pas, pour chaque ordonnance qu'on nous fait ou pour chaque prescription, on peut pas toujours vérifier. C'est très compliqué, en fait. Sinon, c'est trouver le professionnel qui a une approche scientifique. Et malheureusement, en France, l'approche scientifique n'est pas encore vraiment majoritaire, en fait, chez les professionnels de la santé, parfois, mais de la santé mentale ou physique. Mais ça reste quand même assez compliqué de trouver ça.
Est-ce qu'il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus cette approche scientifique?
Ce qu'on remarque, c'est que les recherches scientifiques sont en anglais. Et en France, bon, on a remarqué, moi la première, on n'était pas forcément très bon en anglais. On n'a pas l'affluence comme les pays, voilà, l'Allemagne qui parle beaucoup mieux anglais que nous, voilà, les pays nordiques. Et donc du coup, c'est l'une des explications serait notre barrière en fait purement linguistique par rapport aux écrits scientifiques en tant que tels. Donc moins on les lit, moins on les imprègne et moins nos pratiques évoluent en ce sens-là aussi.
Oui, d'ailleurs, elles sont peu citées, on ne les connaît pas.
Et pourtant, elles sont là, elles sont très foisonnantes. Et il en existe énormément. On a beaucoup de matière. On a les connaissances maintenant qui sont là, mais aussi faut-il aller les chercher. Il y a un décalage énorme entre les laboratoires de recherche, la connaissance scientifique qu'on a sur l'enfant aujourd'hui, et les connaissances sur le terrain. Il y a un monde entre les deux. On a genre 5 ans de retard, quoi, de décalage. C'est très impressionnant.
Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a quand même en France des laboratoires de recherche, des personnes qui font de la recherche auprès des enfants, de l'éducation, des parents, etc. Voilà. Qu'est-ce qui fait finalement qu'ils ne soient pas assez, en tout cas, ou davantage visibilisés?
Ben après, est-ce que c'est les formateurs? Parce que j'ai étudié le sujet il y a quelques années, ça m'avait vraiment beaucoup alertée et puis beaucoup préoccupée. En fait, je pense que les formateurs, ceux qui forment les professionnels de la petite enfance, ou ceux qui forment même en psychologie, en tout cas, je connais que la psychologie, mais les médecins ou les sages-femmes, en fait, ils vont pas chercher à la source l'information. Et généralement, ils ressortent ce qu'ils ont intégré 10, 20 ou 30 ans avant. Et une fois, j'avais remarqué ça dans une formation que j'avais fait pour les puéricultrices, donc celles qui sont infirmières et qui ont une spécialité en plus de puériculture. On avait comparé un contenu de formation d'il y a 25 ans et avec le contenu de formation d'il y a genre 3 semaines, parce que la nana était jeune diplômée, c'était rigolo, on avait pendant plusieurs profils et on avait vu en fait qu'il y avait très peu de changements, voire quasiment pas. Donc du coup, ça, voilà, ça pose question sur comment, en tant que formateur, on va aussi se former pour avoir les bonnes connaissances, pour les diffuser et pour rompre le cercle vicieux de la transmission transgénérationnelle de connaissances.
Donc comment on fait évoluer finalement les connaissances, le savoir, en intégrant les nouvelles données?
Oui, il faut vraiment se mettre à jour et partir à la source actuelle et pas à ce qu'on a appris il y a 30 ans. Ça, c'est vraiment important.
Et pour les parents qui nous écoutent, voilà, comment ils peuvent aller chercher justement ces études, ces informations? Où est-ce qu'ils peuvent les trouver?
Alors, il y a des sites qui sont en français, il faut savoir, qui sont canadiens, qui sont très bien. Par exemple, moi, il y a un site que je conseille souvent aux familles qui veulent s'intéresser à la psychologie de l'enfance. C'est le site qui s'appelle « L'encyclopédie du jeune enfant ». Ce sont des revues littérature qui sont écrites par des chercheurs, qui sont traduites en français, donc ça, c'est vraiment super.
Donc ça, c'est quand même une super ressource pour les parents. Par rapport aux croyances qu'on peut avoir autour de l'éducation, il y a différents domaines. Là, vous évoquiez déjà tout à l'heure cette question du fait de laisser pleurer les enfants pour qu'ils s'endorment. Donc, il y a tout un tas de croyances autour du maternage, du sommeil, le fait qu'il ne faut pas bercer l'enfant parce que sinon, il s'habituerait au bras, qu'il ne faut pas lui donner la tétine parce que ça empêcherait l'apparition du langage, qu'il faut au moins allaiter 6 mois parce que le lait maternel est ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Par rapport à cette première famille de croyances autour du maternage. Pourquoi c'est important de remettre ces croyances-là en question?
Surtout pour le maternage et la parentalité, là, il y a vraiment, la transmission des croyances est vraiment très, très forte. En fait, on a un côté vraiment très culturel. Je pense qu'en formation, même en consultation avec les familles, jamais leur dire, on va repartir à la base, on va mettre la culture de côté. Tout ce qui est culturel, tout ce qui est héritage, tout ce qui est, soit légitime ou pas, on le met de côté et on repart des fondamentaux, à savoir l'enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant? Qu'est-ce que c'est un jeune enfant et de quoi il a besoin? Et en fait, quand on met tout de côté comme ça, en fait, on voit qu'il y a des croyances qui sont des fois légitimes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il faut vraiment mettre tout ce qui est culture de côté pour parvenir à un vrai savoir, en fait.
Si on prend l'exemple du sommeil, c'est vrai que, par exemple, nous, en France, on a plutôt tendance à inviter les parents à faire dormir l'enfant dans son propre lit, dans sa propre chambre. Oui. Alors, culturellement, il y a d'autres cultures où l'ensemble de la famille va dormir ensemble dans le même lit, par exemple. Des habitudes ou des manières de faire qui sont empreintes culturellement de manière très forte.
Complètement. C'est vrai qu'on voit des fois les pratiques qui évoluent à 10 000 km plus loin, la pratique est complètement opposée. Et par exemple, c'est une ancienne culture, dormir avec son enfant, c'est presque une norme. Enfin, c'est une norme. Si on ne le fait pas, on est jugé mauvais parent. Alors que chez nous, en France, si on le fait, on est jugé mauvais parent. Enfin, ça montre bien qu'il n'y a pas de vérité, en fait. C'est que je pense que tous ces idéaux-là, ces injonctions culturelles, on les met de côté et on se dit, mais en fait, l'enfant, comment il fonctionne? Comment fonctionne son sommeil et de quoi il a besoin vraiment pour bien fonctionner, en fait, et pour bien dormir? Et en fait, on voit effectivement que l'être humain, en bas âge, il est quand même profondément immature. On est le mammifère le plus immature de tout le règne animal et que on est une espèce qu'on appelle une espèce porteuse, hein. On n'est pas des suiveurs, on est des porteurs, on est fait pour porter nos bébés parce qu'ils sont profondément immatures, justement. L'un implique l'autre. Et du coup, on voit que le sommeil généralement partagé favorise le sommeil de l'enfant. Donc en fait, on voit que si on part vraiment du fondamental, genre comment on fonctionne à la base, les bébés sont faits pour dormir après leurs parents. Enfin, ça paraît logique. Mais c'est que si on y met du culturel, alors là, on s'y perd complètement. On arrive à des conseils complètement ambivalents, en fait.
Alors là, vous nous dites que c'est mieux pour l'enfant, mais qu'en est-il pour le parent? Parce que moi, j'ai l'impression aussi que toutes ces croyances en France autour de l'éducation, c'est qu'il y a encore cette vision où il ne faudrait pas que l'enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, dérange le parent. Voilà.
Oui.
Qu'on est dans une vision où les enfants, ils ne doivent pas perturber la vie ou déranger le parent. Voilà. Il y a encore beaucoup ces idées-là qu'il faudrait Vous voyez, le mot qui me venait, c'était dompter presque l'enfant pour qu'il perturbe pas, pour qu'il soit pas perturbateur de son environnement et de ses parents.
En fait, c'est ça qui me fait raison, mais en France, l'enfant, il a une position qui est très particulière, d'être souvent inférieur, qui doit obéir, d'enfant un peu tyran, manipulateur. En fait, on a une vision de l'enfant en France qui est très négative. Et on le voit bien avec les livres qui sortent, on voit bien que la manière de penser l'enfant, elle est très négative par rapport à d'autres voisins européens, par rapport, bon, alors, une pays nordique, forcément, on a un monde entre les deux, mais c'est qu'on a une vision de l'enfant qui est très négative, et il faut pas qu'il dérange le parent, et du coup, on se dit, en plus, faut pas que l'enfant dorme dans la chambre des parents, chambre sacralisée, on a vraiment une manière de penser la chambre parentale qui est très particulière en France aussi, on y met beaucoup de sexualité, beaucoup d'intimité du couple, enfin bref. Et donc, effectivement, cette vision de l'enfant négative va faire qu'on va avoir des conseils aux parents, généralement, qui ne répondent pas aux besoins de l'enfant, mais plus à celui de ses parents. Quoique, je dis ça, mais pour le sommeil partagé, moi, je vois plein de familles qui aimeraient bien dormir avec leur enfant, mais qui n'osent pas, parce qu'elles ont honte et parce qu'elles pensent que c'est quelque chose qui est inadapté. Donc aussi, des fois, les parents s'y perdent aussi, ils perdent des plumes. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de familles, moi, ça m'est arrivé, mais pendant un temps, c'était vraiment tous les jours, on parlait beaucoup de sommeil, des familles qui me disaient, mais moi, mon enfant, il a genre un an et demi, il se réveille 3-4 fois par nuit, et chaque fois, je me lève, je vais le rendormir dans son lit, je me recouche, je me lève, je rentre dans son lit, je me recouche. Je dis, mais comment vous faites pour survivre à ça, quoi? Pourquoi vous ne dormez pas avec votre enfant? C'est beaucoup plus simple. Elle me disait, mais on peut dormir avec son enfant? Je dis, mais oui, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Parce que je veux dire, effectivement, des fois, le parent est pénalisé lui-même, en fait.
Difficile quand même cet équilibre entre ce qui est le meilleur pour mon enfant, ce qui est quand même supportable et bien pour moi en tant que parent, et puis en répondant aux injonctions.
Après, le problème, c'est que souvent, on pourrait se dire, si on suit à la recherche, on aura des conseils complètement justes et légitimes, mais en fait, il y a aussi des courants de recherche qui se contredisent. Par exemple, c'est ça, là, on dit, on va jamais s'en sortir. En fait, par exemple, parlons pour le bébé sans sommeil, parce qu'on parlait de ça à l'instant, mais des recherches vraiment axés comportementalisme, vont dire, si vous voulez que votre enfant ne vous réveille plus la nuit, vous ne répondez plus aux pleurs. Ce qu'on appelle les problèmes d'extinction. Si on éteint la présence parentale, les pleurs s'arrêtent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si l'enfant pleure, il n'y a plus de réponse d'interlocuteur, les signaux de détresse, d'attachement se désactivent. Ça, c'est quelque chose qu'on sait bien. Donc, ces programmes-là marchent, et ça marche de laisser pleurer les bébés. Donc, la recherche nous dit que ça fonctionne. Donc bon, on est embêté déjà. Et l'autre courant, vous avez les attachementistes, donc tout le courant de l'attachement qui vont vous dire, attention, puisque ok, peut-être, si vous ne répondez pas aux pleurs, votre bébé ne pleurera plus. Mais attention, l'attachement, on le crée quand on répond aux signaux de détresse de votre bébé. Donc, si vous voulez miser sur l'attachement et le bien-être de votre enfant, là, on vous conseille plutôt de répondre aux pleurs, voire de dormir avec lui.
Oui, donc ce n'est pas parce que ça marche que ça sera à long terme quelque chose de positif pour l'enfant.
Complètement. En fait, soit on mise l'efficacité à court terme, soit on mise le bien-être et qu'est-ce que c'est un peu à long terme. Donc là aussi, comment s'en sortir? C'est vraiment une question. Pour les parents qui ne connaissent rien, ils sont paumés, et je comprends.
Du coup, pour revenir sur cette question des pleurs, parce que moi, c'est quelque chose que j'entends vraiment beaucoup. On entend, et les parents entendent de plus en plus l'importance de ne pas laisser pleurer. Alors du coup, parfois, à l'extrême, il y a des parents où dès que l'enfant se met à pleurer, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il en est réellement, concrètement, d'un point de vue scientifique? Est-ce que c'est, parce que finalement, pleurer, c'est la manière de l'enfant aussi de s'exprimer. Est-ce que c'est le pleur le problème ou c'est le fait de pleurer seul?
Mais en fait, c'est le fait de pleurer seul. Mais après là, on met aussi beaucoup de nuances. Ce qu'on sait, en fait, on ne sait pas grand-chose, en fait, de comment ça impacte l'enfant quand on laisse pleurer seul. On sait, de par la théorie de l'attachement, que plus on répond aux pleurs du bébé de manière stable et ajustée, plus le lien attachement sécure va se construire. Ça, on le sait. On sait que les pleurs, parallèlement avec toutes les études sur les pleurs, même anthropologiques, interculturelles, que les pleurs sont un signe de détresse qui nécessite la proximité du parent. Donc, les pleurs existent parce que ça fait venir le parent jusqu'à l'enfant qui est immature. Donc, ce cours-là nous dit aussi qu'il faut répondre aux pleurs par la proximité physique. Mais en même temps, souvent, on dit, oui, attention, si on laisse pleurer l'enfant seul, ça crée du stress. Et trop de stress, c'est pas bon. Là, on peut mettre une limite. C'est-à-dire que c'est pas un enfant qui pleure de temps en temps, ponctuellement, faute de mieux seul, parce que le parent, sinon, il a le droit de le violenter, qui va avoir un stress chronique, invalidant, pour ses prochaines années de vie. On n'en parle pas non plus dans l'extrême. En fait, on sait que c'est pas terrible de séparer un bébé. C'est pas grave non plus si on séparer un bébé de temps en temps. L'idée, c'est que quand on peut, si on est prêt à l'accueillir, on y va, en fait. Effectivement, après, pareil, il y a pleurer et pleurer seul, comme vous disiez. On va prendre l'enfant dans les bras. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas couper l'enfant dans ses pleurs, idéalement, quand il est dans les bras. Pleurer, c'est bien, c'est sain. C'est un mécanisme d'homéostasie, de régulation de l'homéostasie qui est importante pour que l'enfant se sente mieux aussi, c'est son antistress aussi un petit peu à lui. Donc, prendre dans les bras l'enfant, ça c'est important si on peut le faire. Et après, on peut laisser pleurer dans l'enfant dans les bras.
Ouais, c'est important ce que vous dites là, parce que moi j'entends beaucoup de parents qui presque ont entendu à l'extrême qu'il faut plus que l'enfant pleure du tout. Voilà, qu'il faudrait annuler les pleurs, alors que ils ont une fonction de décharge, fonction aussi physiologique qui est importante et dont il faut pas priver l'enfant.
Complètement. En fait, ils ont une fonction d'empathie, c'est-à-dire que les pleurs permettent de ramener l'autre et de prendre soin, enfin, du caregiving, en fait, que l'adulte prenne soin du bébé, et effectivement aussi de régulation plus d'ordre physiologique. Pleurer, c'est important pour l'enfant, donc pas le priver de son mécanisme de pleurs. S'il est né avec, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il faut aussi encourager ça. Que si l'enfant est dans les bras de l'adulte et qu'il pleure quand même, c'est montre bien qu'il y a une autre fonction que celle de l'empathie, puisque l'empathie, il l'a déjà à ce moment-là.
Bien sûr. Alors du coup, ça nous amène sur les croyances autour des émotions. Là, vous venez de nous dire l'importance de prendre dans les bras, mais on peut encore entendre en effet qu'il ne faut pas prendre un enfant qui pleure dans les bras ou qu'il faudrait l'arrêter tout de suite, presque lui interdire de pleurer. Alors peut-être plus aussi les petits garçons qui sont soumis peut-être à ces injonctions. Par rapport aux émotions aussi, le fait de gronder les enfants quand ils nous crient dessus.
Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'ai déjà fait en tant que maman parce que on est tous énervés quand un enfant nous crie dessus, hein. On est d'accord. Mais c'est vrai que, enfin, ça paraît complètement paradoxal. Enfin, un enfant nous crie dessus et on lui crie dessus. Enfin, ça paraît comme ça un peu ambivalent. Mais effectivement, idéalement, alors pareil, j'aime bien dire idéalement parce que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Dans la vraie vie, on a nos émotions, notre fatigue. On a notre propre réservoir d'énergie. Des fois, on est à sec en tant que parent. Et moi, je vis ça 3 fois par jour. Donc, je sais ce que c'est. Donc, idéalement, dans le monde idéal de la théorie, hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui, quand un enfant, effectivement, est en colère, l'objectif serait de diminuer son niveau de stress. Et donc, au lieu de lui crier dessus, au lieu de le punir et d'augmenter la frustration, au lieu de l'humilier, au lieu de le violenter, ce qui n'arrange rien à court terme, ni d'ailleurs à long terme, il faudrait, en fait, idéalement, qu'on se pose, du coup, au sol, qu'on reste super calme soi-même. Et en fait, la plus dure, c'est de rester calme quand on est en fait en colère. Et une fois que le pic de colère redescend, on peut commencer à la prendre dans les bras et à mettre des mots sur ses états émotionnels. On sait que la mise en mots des états émotionnels favorise la compétence émotionnelle. C'est-à-dire que c'est à réguler et à comprendre son émotion. Mais ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Et ce moment, des fois, c'est plus simple de lui hurler dessus parce qu'on a un effet qui est immédiat, parce qu'on soulage soi-même que de faire cette attitude-là. Mais après, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, l'idéal, ce serait ça, en fait.
Moi, j'ai des parents, et d'ailleurs moi-même, hein, où parfois, je me rends compte que le fait... En effet, on peut avoir envie de crier, on n'en peut plus aussi.
C'est agréable, hein.
Mais c'est très énergivore aussi. Alors qu'au final, voilà, prendre un peu de retrait, laisser l'enfant voilà, être traversé par sa colère et laisser retomber les choses, en étant là, en garantissant la sécurité, mais sans forcément intervenir directement, bah, ça va être moins énergivore aussi. Et une fois que les choses sont redescendues, en effet, là, on peut voilà, proposer un contact, un échange ou autre.
Ce qui est dur, en fait, c'est de penser que l'enfant ne fait pas ça contre nous. Et souvent, je dis aux parents, je dis, gardez en tête, ou même aux professionnels, je dis, gardez en tête un mantra, enfin, une petite idée, genre, c'est pas contre moi, ou il fait ce qu'il peut, ou il a que 3 ans, ou là, il fait de son mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du moment que le parent pense que l'enfant se met en colère contre lui, il va être forcément plus agressif. Donc, il faut garder cette idée, en fait, que l'enfant fait ce qu'il peut, qu'il est un être immature, qu'il a une mauvaise régulation, parce que c'est lié à son jeune âge aussi, que nous-mêmes, on régule pas non plus très bien les émotions, donc ne le demandez pas trop, parce que nous-mêmes, 30 ans plus tard, mieux que ça. Mais voilà, gardez déjà en tête que c'est pas contre nous, c'est déjà un bon début. Et après, est-ce que c'est moins énergivore de pas s'énerver? Franchement, c'est tellement tentant de s'énerver sur le moment, mais c'est vrai qu'en soi, ce serait moins énergivore, ouais. Mais en même temps, on est tellement stressé qu'on a besoin de décharger nous-mêmes, en fait. On a besoin de retrouver notre propre homéostasie. Donc, ce que je conseille, c'est que si jamais elles sont vraiment trop en colère, que cette idée du mantra ne suffit pas, c'est aux parents de partir, en fait, de se mettre en time-out soi-même, c'est-à-dire de quitter la pièce, de laisser l'enfant retomber, de redescendre soi-même et de revenir quand on est prêt. Et de retrouver le lien, en tout cas, dès qu'on peut. Le lien est important à retrouver après coup. Mais bon. Ah, et ça, c'est en théorie, en pratique, c'est peut-être plus complexe aussi.
Ce time-out du parent, alors en discipline positive, c'est le temps de pause. Qu'est-ce que vous pensez du time-out? Le fait, non pas, c'est pas le parent qui s'isole, mais d'isoler l'enfant.
Alors le time-out, tout dépend comment on l'applique. Si on suit la recherche scientifique, le time-out, alors c'est loin de ce qu'on pourrait qualifier de fait dans ta chambre qu'on a aujourd'hui en France. Hein, le time-out, le vrai time-out, c'est plutôt un outil, toute une discipline très positive basée sur le renforcement, la relation chaleureuse. Et c'est un outil qu'on utilise de manière très, très, très ponctuelle pour éviter des comportements extrêmement agressif ou alors une escalade de violence familiale très importante. Donc là, c'est un outil qui s'utilise de manière très ponctuelle. C'est vraiment le haut de la pyramide et qu'on utilise vraiment quand la relation à l'enfant est chaleureuse, quand le style est démocratique et quand le reste du temps, on encourage à fond les valeurs de son enfant. Donc là, c'est un outil voilà, qui s'inscrit dans un contexte très particulier. Et quand le contexte particulier est là, en soi, le time-out, c'est vraiment le fait, désolé, alors c'est 2 à 4 minutes, vraiment très grand, maximum 5 minutes. Souvent, c'est dans la même pièce, sous le regard du parent, l'enfant, c'est-à-dire le mettre, en fait, à l'écart des renforçateurs. Donc, ça peut être de, généralement, ça peut être des jeux dans la pièce. On le met un peu à l'écart dans la pièce, ça peut être, par exemple, sur le canapé. On lui demande de se poser 2-3 minutes, tant qu'il redescende. Donc, ça peut être en soi un temps qui est très bénéfique s'il est vraiment pratiqué de manière chaleureuse et respectueuse de l'enfant. Donc, ça peut être un temps que je peux recommander, mais je le recommande pas, généralement, je le recommande toujours aux parents de faire un time-in, de garder le lien avec l'enfant, sauf si vraiment il y a un débordement majeur. Mais sinon, même normalement dans les programmes genre Casdin, Alain Casdin, qui parle beaucoup de time-out, il le fait de manière extrêmement ponctuelle. Ça va être 2 ou 3% du temps.
Oui, c'est pas quelque chose du tout que vous recommandez d'utiliser de manière systématique.
Personne ne recommande de manière systématique. Mmh. Aucun chercheur ne le recommandera de manière systématique. Non, non, pas du tout. C'est un outil vraiment, c'est vraiment un outil très, très, très ponctuel, voire anecdotique dans la journée d'un enfant.
Merci, Héloïse, pour ces éclairages. Pour revenir sur les croyances autour des émotions, moi, j'entends aussi beaucoup de la part des parents cette idée qui, en tout cas cette idée, cette croyance, que le parent ne doit pas partager ou montrer ses propres émotions à son enfant.
C'est vrai que l'émotion de l'adulte, elle est taboue. Elle est un peu jugée un peu comme sale, comme un signe de faiblesse, de vulnérabilité. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'on passe notre temps à faire des outils, des gadgets autour de l'émotion de l'enfant. Enfin, il y en a plein. Moi aussi, j'écris des livres sur les émotions de l'enfant, donc je suis coupable. Hein. Mais des livres émotions, des cartes émotions, des frises à émotions, des balles émotions, des coussins émotions. Enfin, c'est une entreprise, quoi. C'est vraiment une entreprise. Et parallèlement, l'émotion du parent, on n'en a rien à taper. Ou alors, quand elle arrive, on dit, vas-y, mets-la sous le paillasson, c'est sale, c'est vulnérable, ne la dis pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans les recherches, on voit que les enfants dont les parents mettent des mots sur leurs émotions de parents, genre le parent qui dit « je suis nul, je suis fatigué, j'ai peur, je me sens impuissant, je me sens coupable, j'ai honte », ça fait des enfants qui régulent mieux leurs émotions et qui ont une meilleure compétence émotionnelle, qui ont une meilleure capacité à les réguler, à les comprendre. Donc l'émotion du parent est un super bon outil pour que les enfants régulent mieux leurs propres émotions. Donc c'est intéressant de voir que dans la recherche, on a un discours complètement différent, une fois de plus, déconnecté avec le terrain, quoi. Et avec toute l'industrie de la puériculture et du marketing qui en met plein le paquet sur l'émotion de l'enfant et très peu sur l'émotion parentale. Mmh.
Donc vraiment, là, l'importance du parent de partager aussi son vécu émotionnel, qu'il soit positif, alors j'aime pas dire négatif, mais ou plus désagréable.
Exactement. C'est comme, il faut être transparent en fait. Plus on parle de ses émotions de manière libre, de manière non genrée, non stéréotypée, plus l'enfant, ça va l'aider mais à fond pour sa propre vie émotionnelle. On est les modèles sociaux de nos enfants. On n'y peut rien, c'est comme ça. On leur dit, mets des mots sur tes émotions, mais on ne fait pas nous-mêmes. Donc voilà, faisons ce que leur conseille. Avec humilité, toujours.
Ouais, mais généralement, ça marche bien, quand même. Et puis moi, je vois hein, oui. Les parents qui, une fois qu'ils osent voilà, parler de leurs émotions, alors c'est souvent parler des choses qui sont un peu difficiles, voilà, parfois de leur tristesse, ou il ne s'agit pas forcément de tout raconter à l'enfant, mais voilà, en tout cas, une fois qu'ils osent la nommer, l'émotion. Ils sentent bien qu'il y a de la réaction de la part de leurs enfants et puis que ça permet de partager de manière aussi authentique avec ses enfants. Et ça, c'est plutôt chouette.
Le lien, du coup, est enrichi. Le lien, c'est très important, le lien familial. Ouais, complètement.
Sur la question du fait de bercer ou de porter les enfants, parce que ça, c'est aussi quelque chose que je peux entendre beaucoup de... Ben, on me dit qu'il ne faut pas que je porte trop mon bébé parce que sinon, il va s'habituer aux bras, il sera trop dépendant de moi. Voilà, ça, ce sont aussi des choses que j'entends beaucoup de la part des parents. Alors, qu'est-ce qu'il en est ?
C'est drôle parce que c'est marrant parce que la croyance est tellement forte. Enfin, ça me fait penser à une anecdote. J'avais une amie qui était éducatrice de jeunes enfants. Enfin, elle l'est toujours. Et donc, en tant que EJE, elle était convaincue qu'effectivement, il n'y avait pas d'habitude au bras. Elle était convaincue de ça. Et quand elle est devenue maman, c'est drôle, ça m'a, je me souviens de la chance toute ma vie, elle est devenue maman, elle était en panique parce que des sages-femmes de la maternité, son pédiatre, je sais plus, sa belle-mère, je ne sais plus, lui avait dit, attention quand même, tu le prends dans les bras, ton enfant, il pleure beaucoup, est-ce que c'est pas lié à ça? Et j'avais eu au téléphone, genre en postpartum, il devait, je sais pas, son bébé devait avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, plusieurs fois, elle m'a dit, mais Héloïse, t'es sûr de toi? Que quand on prend l'enfant dans les bras, ça va pas le rendre dépendant, ça va pas augmenter les pleurs. Elle me dit, Ali, je sais intellectuellement, mais est-ce que vraiment, émotionnellement, tu en es sûre? Est-ce que tu peux me convaincre? Parce que lui me certifie que oui, ça va pas créer d'habitude au bras. C'est drôle de voir quand même que cette professionnelle qui avait tout un bagage théorique en tête, en tant que maman, cette croyance était tellement forte qu'elle venait faire vaciller ce bagage théorique. Enfin, ça m'avait vraiment, dit, Louise, t'es sûre de toi, là?
Et en fait, alors, du coup, oui, je dis oui, je suis sûre de moi. Et en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est comme on disait tout à l'heure, déjà de manière vraiment par rudiment à la base de la base, mais le bébé humain est un mammifère, du coup, il est profondément immature. On est une espèce qui est portée et on est programmé pour porter nos bébés. On est programmé. C'est pas un girafon qui marche au bout d'une heure une demi-heure de vie ou un veau ou un poulain qui sont des mammifères suiveurs. On est mammifères porteurs, donc on doit porter nos bébés. On les porte. C'est comme ça, c'est un fait. Donc déjà, faut savoir qu'ils sont programmés pour être portés et nous, on est programmés pour les porter. Après, par rapport aux pleurs, par rapport aux recherches, notamment sur l'attachement, on voit bien que les enfants, plus ils sont portés, plus on répond à leurs pleurs de manière réactive, ajustée dans la première année de vie, moins après, ils réclament les bras de l'adulte et moins après, il y a de phases de pleurs comme ça, un petit peu de proximité physique. Donc déjà, on voit que c'est comme un investissement. Plus on passe du temps à proximité avec eux, moins par la suite, ils pleurent. Tous les faisceaux nous montrent effectivement que plus on répond à ces pleurs-là et par les bras, plus ça sera adapté. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, et d'ailleurs, ce que me disent beaucoup les pros des crèches, c'est que généralement, les enfants qui, dès le début de la vie, sont habitués à être seuls, sont habitués à être dans l'autonomie, ils sont habitués à être souvent en transat, ils sont habitués à être souvent sur le tapis, et que ces bébés-là, du coup, ils réclament moins les bras. Et là, on se dit, mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'à la base, ils sont faits pour être portés, mais que par l'apprentissage, par l'habituation, on peut s'habituer à être seul. Mais ce n'est pas la voie qui est la plus adaptée à leur fonctionnement de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des enfants qui réclament moins les bras. Et après, il y a une autre catégorie d'enfants aussi. C'est les enfants qu'on appelle très réactifs, qui ont un tempérament très réactif. Et ceux-là réclameront encore plus les bras que la moyenne des enfants. Parce qu'ils ont un cerveau qui est plus sensible à la stimulation. Ils ont besoin de l'adulte plus pour être rassurés par rapport à la moyenne des enfants de leur âge.
Là, ce que vous nous dites, voilà, que le portage, il est... Alors, je ne sais pas si on pourrait dire inscrit dans nos gènes. En tout cas, il est essentiel. Il est essentiel au développement de l'enfant. Et que plus on va répondre à ça, plus finalement, à long terme, on va favoriser l'autonomie de l'enfant.
Oui, la vraie autonomie, du coup. Pas l'autonomie forcée et relative du début de vie, en fait. C'est ça, effectivement, oui. Parce que le lien d'attachement sera plus, potentiellement plus sécur et que l'enfant saura qu'il aura introduit, intégré cette figure d'attachement rassurante qu'est son parent. Ça prend du temps au début de vie, du coup. Et ça ne pas forcément les rythmes des parents qui sont plus ou moins dispo. La crèche collective, ce n'est pas adapté parce qu'on est un adulte pour 5 bébés. Donc, voilà. Ça part seulement avec nos codes culturels, mais c'est ce qu'il faudrait pour un bébé.
Et du coup, par rapport au bercement, est-ce que c'est le même principe puisque c'est un moment, finalement, de portage?
Alors, c'est vrai que le bercement n'a pas la cote culture, effectivement. Et pourtant, on a quand même tout un patrimoine de berceuses. Ça veut bien que le bercement, à la base, était très, très fréquent. Alors, les berceuses, elles sont pas forcément toujours adaptées en termes de contenu, hein, de texte. Mais néanmoins, on a quand même des berceuses, on a un patrimoine de berceuses. Donc, on montre bien que les anciennes nourrices et les anciens parents berçaient beaucoup leurs bébés et qu'on est fait pour bercer nos bébés. Et c'est pareil pour le bercement, effectivement. On sait qu'un enfant qui est bercé contre les bras de son parent, trouvera plus facilement le sommeil qu'un enfant qui est dans son lit, dans une chambre isolée. Ça, c'est sûr, en fait, parce qu'on est plus programmé pour être proche d'un bébé. Mais aujourd'hui, le bercement, pareil, cette proximité physique ne met pas à l'aise les professionnels. C'est une famille également, donc du coup, on a tendance, des fois, à déconseiller d'habituer l'enfant à s'endormir dans les bras pour qu'il trouve son sommeil tout seul. En fait, on aime bien, on a une passion en France, c'est de faire en sorte que l'enfant s'endorme seul et dorme seul. C'est un biais culturel.
Oui, parce que là, moi, j'entends plein de parents qui me disent « j'ai fait ça, et puis aujourd'hui, mon enfant a 3 ans, et il a toujours besoin que je sois là, à côté, que je lui fasse des caresses, que je lui chante des chansons pour pouvoir s'endormir. » Là, le parent, ça fait 3 ans, il n'en peut plus, il est au bout de sa vie, et il a l'impression d'avoir créé finalement cette situation.
En fait, il n'a pas créé cette situation. Alors, c'est l'impression qu'il en a, mais il ne l'a pas créé. En fait, c'est juste qu'il a répondu à ce besoin de proximité de son enfant, et c'est dans la continuité des réponses qu'il a portées à la base, en fait. Mais dans les d'autres pays du monde, des enfants qui dorment contre leurs parents à 3 ans, même à 4 ans, même à 5 ans, ça pose pas de problème, en fait. C'est juste que le parent se sent en conflit d'intérêt entre les réponses qu'il a portées à son bébé naturellement depuis sa naissance et les injonctions culturelles qu'il en a. Mais je sais pas, il vivrait en Suède, il se poserait beaucoup moins de questions. Il serait en Afrique du Sud, il se poserait beaucoup moins de questions, en fait. Il y a plein de parents, d'ailleurs, qui endorment leur enfant à 3 ans contre eux, voilà, qui s'endorment contre leur enfant le soir à 3 ans. Souvent, genre, je gratte un peu, effectivement, ça saoule beaucoup de parents parce que ça prend du temps, je comprends complètement pour avoir vécu aussi. Mais je leur dis, mais est-ce que ça vous dérange, vous, personnellement, intimement, ou est-ce que ça dérange l'image que vous avez des parents d'aujourd'hui, en fait? C'est quoi le problème, en fait, chez vous? C'est vraiment une image endogène qui vous dérange, ou est-ce que c'est vraiment l'image de la société, la culture qu'elle vous renvoie? Et souvent, c'est quelque chose qui est très culturel, en fait.
Oui, c'est qu'ils se sentent jugés mauvais parents parce qu'ils font toujours ça alors que leur enfant a 3 ans et que dans leur esprit, il y a cette croyance qu'à 3 ans, un enfant devrait pouvoir s'endormir tout seul.
Exactement. Et c'est une injonction qui est très forte pour eux, du coup. C'est une pression qui est très, très forte. Mmh. D'ailleurs, quand je conseille aux parents, je leur dis, bon, ok, est-ce que, enfin, ils me disent, oui, je voudrais bien que mon enfant s'endorme seul, comment je fais? Quand on étudie les différentes pistes possibles, ça aboutit pas parce qu'en fait, ils sont pas convaincus eux-mêmes de la nécessité d'endormir leur enfant. Enfin, qu'ils s'endorment tout seuls. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose qui vient du dessus ou du côté, c'est tellement pas quelque chose qui porte eux-mêmes le fait d'endormir leur, enfin, le fait que l'enfant doit apprendre à s'endormir seul, que du coup, ils ont du mal à aller jusqu'au bout et ils ont du mal à faire en sorte que l'enfant s'endorme seul. En fait, ils aiment bien des fois ce temps-là aussi, les parents. Malgré eux, ils aiment bien ce temps de proximité, c'est doux, c'est, l'enfant s'endort dans les bras, c'est mignon, c'est un côté très chaleureux et, ouais, c'est pas forcément convaincu de l'inciter de le faire, de l'apprendre à l'enfant s'endormir seul, donc du coup, ça capote, quoi. Enfin, c'est drôle. Et c'est pas grave, en fait. Quand tu me dis ça, je dis, mais et alors, est-ce que ça vous dérange vraiment, vous, en fait? Ça vous dérange votre belle-mère? Ça dérange l'image que vous avez de vous-même?
Oui, et que finalement, de résoudre ces paradoxes ou ces injonctions contradictoires qui sont ressenties, voilà, ça permet d'y voir plus clair et finalement d'être plus apaisé avec ce qui se passe et de le vivre plus sereinement.
Complètement. En fait, ce qui est important, c'est vraiment que le parent agisse en fonction de ses valeurs à soi, mais de ses valeurs profondes et de ce qu'il veut profondément pour son enfant. Il faut vraiment qu'il arrive à faire ça et à s'affranchir de tous ses codes culturels. Et si son enfant s'endort seul à 3 ans, c'est bien. S'endort pas seul, c'est bien aussi. Et alors? Voilà, c'est juste, c'est aux parents de juger, en fait.
Ouais, c'est important, ça, de le dire, hein, parce que, à l'inverse, les parents peuvent avoir l'impression d'être tout le temps soumis à des bonnes ou des mauvaises pratiques, d'avoir tout le temps ce regard jugeant sur eux dans un sens ou dans un autre, quoi.
Complètement. Bon, après, quand même, des pratiques qui sont pas terribles, genre tout ce qui est punition excessive, tout ce qui est autoritarisme, cri, on sait que c'est pas adapté, mais bon, généralement, les parents sont tellement bienveillants, ça se passe bien, en fait. On fait au mieux, on se plante tout le temps, mais on le fait au mieux, et puis c'est très bien, puis on avance.
Par rapport à cette question des habitudes, à partir de quel âge on peut parler d'habitude chez un enfant, alors que ça soit voilà, pour le sommeil, pour le portage, en tout cas. Moi, il y a longtemps, j'avais entendu qu'avant l'âge de 1 an, on ne parlait pas d'habitude chez l'enfant, mais je ne sais pas du tout s'il y a un fondement scientifique à ça.
Ben, je sais pas ce que c'est qu'une habitude vraiment, mais en tout cas, on pourrait peut-être parler de routine ou d'attente de l'enfant. En fait, ce qu'on voit, c'est que, ce qui est intéressant de voir, c'est que le cerveau du petit humain, comme le nôtre d'ailleurs, est dit probabiliste. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir des attentes par rapport à la récurrence des actions. Un enfant qui est, de manière concrète, toujours endormi dans les bras, aura des attentes d'être, enfin, la prochaine fois où il va se coucher, il sait, enfin, son cerveau, implicitement, va savoir que son parent va lui proposer les bras pour s'endormir. Donc ça se fait très rapidement après la naissance, en fait. C'est l'attente par rapport à l'environnement. Donc plus c'est récurrent, plus l'enfant va savoir que ça va arriver. Donc finalement, ça pourrait être qualifié d'habitude. Et en fait, on voit que bien avant 1 an, l'enfant a des routines, il y a des attentes implicites par rapport à son environnement et par rapport à toutes les redondances qu'il a eues auparavant. Donc finalement, l'habitude arrive bien avant 1 an. Et plus il y a des actions répétées envers un enfant, plus ces actions-là vont être attendues implicitement de la part de l'enfant.
Et est-ce que ça peut se changer?
Bien sûr, ça je dis aux parents, mais il n'y a rien d'irréversible. Il faut se détendre. L'enfant est beaucoup plus flexible que nous, en fait. C'est ça que souvent le parent il dit, oui, mais si tu dors pas dans son lit à l'âge de 6 mois, ce sera comment plus tard? Je dis, mais tranquille, tranquille. Vous pouvez naturellement changer les habitudes, les routines. C'est juste que quand on change une routine d'un enfant, qu'on soit bien clair, il faut avoir plusieurs fois la même routine de manière successive pour que l'enfant s'y attende. On sait par exemple que l'enfant, au bout de 3 stimuli identiques, on s'attend à vivre un 4e stimulus identique aux 3 précédents. C'est un peu la loi du 3+1. C'est un peu la théorie bayésienne de base. Donc du coup, si on veut changer l'habitude d'un enfant, il suffit pendant 1 semaine de poser une autre habitude, mais toujours la même, pour que l'enfant ait des attentes par rapport à celle-ci, en fait. C'est juste ça. Mais l'enfant est extrêmement flexible et tout est réversible. Il n'y a pas d'enjeu, ça que, franchement, on relaxe, quoi. Enfin, les parents me disent vraiment, il y a des parents qui sont en panique parce qu'à 8 mois, il dort pas dans son lit. Pas de panique. À 30 ans, il dort dans son lit. Même 2 semaines plus tard, il peut le faire si vous apportez une nouvelle habitude, en fait, tout simplement.
Rien n'est inscrit dans le marbre.
Mais ouais, complètement, quoi. C'est pas une maladie, hein. C'est pas une maladie chronique, moi. On s'étend vraiment.
Il y a aussi beaucoup de croyances autour de la politesse, du fait d'apprendre aux enfants à dire merci, à dire bonjour, avec peut-être encore cette vision très culturelle française de l'enfant qui doit être sage, poli, bien élevé.
C'est vrai, on a un peu de convention quand même. Hein. Ouais.
Et beaucoup de parents d'ailleurs qui disent qu'ils s'épuisent presque à essayer d'apprendre tout ça à leur enfant. Qu'est-ce qu'il en est?
Et ben en fait, pareil, ouais, les parents, en fait, c'est marrant parce que les parents ont tendance, mais les professionnels, c'est pareil, hein, ils ont tendance à penser que du moment que l'enfant sait parler, il connaît les mots de politesse, il doit les sortir à bon escient au bon moment. Enfin, c'est marrant, c'est vraiment drôle ça. En fait, on oublie que le développement d'un enfant, notamment son développement qu'on appelle socio-cognitif, est très, très, très lent. C'est très, très lent. Et en fait, que pour comprendre vraiment le sens de ces mots, les pratiquer à bon escient, dans le bon contexte, avec la bonne personne, ça prend énormément de temps. Et en fait, pour que les enfants comprennent vraiment l'essence même de ces mots, donc ce sont des mots qui sont pas, c'est pas des mots comme chaise, table, hein, le mot merci, s'il te plaît, au revoir, c'est des mots qu'on appelle des mots à valeur sociale. Donc déjà, faut avoir une développement social suffisant. En fait, on voit que pour que l'enfant vraiment comprenne ces mots-là, il faut qu'il ait un minimum de théorie de l'esprit qui soit fondée. Par exemple, la théorie de l'esprit, c'est la capacité de l'enfant à comprendre les états mentaux, à deviner, enfin, à comprendre, ouais, à deviner les pensées des autres. Et en fait, on sait que l'enfant a du mal à se décentrer avant l'âge de 4 ans en moyenne. Donc, 4-5 ans, on voit qu'il y a quand même un tournant où l'enfant comprend mieux ces petits mots de politesse tels que bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Et avant, pour les enfants qui répètent les mots à bon escient dans les bons contextes, c'est juste un conditionnement. C'est juste que le parent lui a tellement dit merci avant à ce contexte-là précis, ou lui a tellement demandé de dire merci que l'enfant le sort. Mais c'est pas vraiment, il a pas vraiment intégré la valeur sociale de ces mots, en fait. Donc c'est plus du forme de dressage, de conditionnement superficiel. C'est pas grave non plus, hein, mais c'est pas indispensable, quoi. Donc le mieux, au lieu de demander de dire merci, c'est de dire soi-même merci, s'il te plaît, pardon quand on le bouscule, par exemple. Et naturellement, par mimétisme, par imitation, il le fera à son tour, hein, bon moment. Donc il n'y a pas de pression, pareil, à avoir sur ce point-là. Ils ont le temps d'apprendre à s'intégrer.
Et là, j'entends tous les parents qui me diraient, mais à quel âge ils doivent les avoir intégrés?
Ouais, c'est ça. Bah, généralement, on voit quand même que vers 4-5 ans, quand ils se décentrent, quand même, il y a une meilleure intégration. On voit qu'ils le sortent plus facilement, plus spontanément. Et vraiment, si à ce moment-là, vers 4-5 ans, on voit que l'enfant dit jamais merci, au revoir, genre la boulangère dit au revoir, et l'enfant, en dehors de la timidité, il pourrait être timide aussi, hein, on pourrait comprendre qu'il ne le dise pas, mais il ne dit pas au revoir, ce serait vraiment quand même très étonnant. Alors, généralement, ils ont bien compris les codes à cet âge-là. Donc, ça arrive tardivement, finalement, ça arrive tardivement. Mais pareil, si l'enfant, à 4-5 ans, ne dit pas au revoir, ou ne dit pas bonjour, ou je ne sais quoi, ou ne dit pas merci, ça peut aussi être le témoin d'une inhibition sociale. On ne va pas l'obliger non plus à être en relation avec quelqu'un qui ne veut pas. Enfin, voilà, on va faire ça de manière très douce, on ne va pas le violenter, l'humilier, s'il ne le fait pas non plus. On respecte l'enfant.
Oui, ça n'amène pas de punition.
Non, surtout pas. Surtout pas, pas pour cette raison-là.
Vous parliez des codes sociaux. C'est vrai qu'on attend beaucoup et très jeunes des enfants qu'ils aient intégré des codes sociaux. Et moi, j'entends beaucoup de parents qui ont peur que leur enfant n'intègre pas ces codes avec cette idée qu'il ne s'intégrerait pas dans la société, que déjà, il y aurait quelque chose de raté ou qu'il le mettrait en difficulté pour sa vie future.
Mais oui. Moi, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la politesse d'un enfant, c'est un peu la vitrine du parent. C'est-à-dire qu'un enfant qui serait mal poli, je veux dire mal poli, en fait, en tout cas, qui n'aurait pas intégré, qui ne sortirait pas les codes sociaux au bon moment comme il faut, ce serait en fait un parent qui aurait échoué dans l'éducation. C'est vraiment notre petite vitrine, en fait, c'est vraiment notre espèce de compte Instagram. Enfin, c'est très particulier. Et donc, du coup, faut rappeler aux parents que enfin, après, ils ont une pression qui est légitime, hein, mais faut rappeler aux parents que c'est pas parce que leur enfant ne dit pas les bons mots au bon moment, c'est une mauvaise éducation. C'est juste qu'en fait, ils n'ont pas forcément le développement suffisant, l'automatisme suffisant, mais c'est pas grave non plus. C'est vrai que souvent les parents prennent ça pour ça, en fait.
Oui, et puis beaucoup de parents qui d'ailleurs font l'expérience, hein, dans les lieux publics, d'être mal regardés, jugés, de recevoir des remarques.
C'est vrai parce qu'une fois j'avais discuté avec une journaliste, c'était pour un article sur quelle thématique, Time Out, je sais plus, qui une journaliste qui était aux Pays-Bas, et elle me disait, mais nous c'est marrant parce qu'aux Pays-Bas, quand un enfant se met en colère au supermarché, on a plus une attitude d'empathie de la part des autres qu'une type de jugement. Et quand je vis en France, ponctuellement, j'emmène avec mon enfant et je suis en difficulté, mon enfant est en crise de colère sur le marché, je sens un jugement oppressant, mais c'est pas du tout le même qu'aux Pays-Bas, en fait. Alors, vous savez, en France, vous avez une manière de voir l'enfant qui est tellement négative que le parent est vite jugé et tout se met sur les codes sur l'éducation. Donc, c'est intéressant de voir des cages culturelles qui existent avec des pays quand même très proches des nôtres, en fait. Genre, géographiquement parlant, en fait. C'est vrai que ça, c'est culturel. Donc, tout ce qui est culture, pareil, on le met de côté. C'est pas légitime, en fait, la culture.
Oui, oui, et puis de pouvoir se dégager de la pression que ça suscite, quoi. Et se recentrer sur l'enfant et ce qui est important pour son développement.
Après, bon, sur le moment, la pression est là, hein, on peut rien y faire. C'est ça que généralement, je conseille quand vraiment les parents sont en face d'une colère très forte, d'un comportement vraiment atypique dans un lieu public, je leur dis, mais prenez votre enfant et barrez-vous. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, au moment où la pression est tellement forte que je me prends mon enfant sous le bras, moi, je vais sur le parking la calmer. C'est plus simple, en fait. Vivons mieux, vivons cachés, ce cas-là.
Ouais. Il y a plein de croyances autour de l'alimentation, Héloïse, avec cette idée. Alors, ça rejoint aussi la question un peu des codes sociaux. Voilà, faut que les enfants se tiennent bien à table, mangent tout ce qu'on leur sert, finissent leurs assiettes, savent bien manier le couvert, la fourchette. Voilà, on mange pas avec les doigts. Alors,
c'est pauvre.
Qu'est-ce qu'il en est scientifiquement?
Mais en fait, effectivement, alors, on voit que les croyances françaises, vraiment les codes culturels français. Et on sait qu'ils sont très, très, très nombreux autour du repas. Alors, le nombre de conventions, de codes, d'interdits autour du repas, il est dingue, en fait. C'est vraiment l'un des moments de la journée qui est le plus codifié, en fait. Et malheureusement, on oublie que l'enfant est en développement, on oublie qu'il n'a pas intégré tous ces codes, et du coup, on a des attentes à son égard qui sont des fois irréalisables. Déjà, la position assise prolongée. On prend un enfant de moins de 3-4 ans. On sait que sa tête est volumineuse, et très volumineuse par rapport au reste de son corps. Ça donne un côté très mignon. En faisant une grosse tête, c'est un côté très attachant. Mais c'est pas, faut dire, c'est pas pratique. Parce qu'en fait, on sait que la position assise pour un enfant en bas âge avec une trop grosse tête, ça va entraîner, du coup, un déséquilibre permanent. Ils ont besoin de rééquilibrer leur axe pour que leur tête soit pas trop envahissante, ne pas tomber en avant. Et donc, du coup, la position assise prolongée est une position non ergonomique pour leur âge. Donc, déjà, quand on impose à des enfants de 2 ans, 3 ans, 1 an, une position assise prolongée, notamment en crèche, c'est ce qu'on voit, mais à la maison, c'est pareil. On va déjà à l'encontre de ce pourquoi, pareil, ils sont prédisposés. Les enfants devraient avoir plus de mouvement, octroyer, enfin, de liberté, de mouvement, au moment des repas pour qu'ils mangent mieux. Déjà, ça, c'est un fait. Donc, si déjà, si un enfant a du mal à manger à l'âge de 2-3 ans, il faudrait l'autoriser. Ça paraît fou pour un Français, hein. Mais par exemple, de quitter la table plus souvent et de pas lui imposer une session assise prolongée. Par exemple, de permettre à l'enfant, après le repas, enfin, après le moment du plat, de partir et de revenir pour le dessert. Parce que c'est trop pour lui, des fois, en fait. Certains enfants, ça va être OK. D'autres enfants, ça va pas être OK. Donc, on s'acclimate par rapport à l'enfant donné. C'est un premier fait. Il y a aussi le rapport avec les couverts. Mais qu'est-ce qu'on a avec les couverts en France? Mais pourquoi on oblige autant les enfants à manger avec les couverts? Dans la recherche, on voit, pareil, l'extrême opposé. On voit qu'en fait, l'enfant, plus il mange avec ses doigts dans une période prolongée, moins il a de risques de néophobie alimentaire. C'est tout cool.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la néophobie alimentaire?
Alors, en fait, c'est à l'âge de 2 ans environ, les enfants ont une tendance naturelle à rejeter les aliments qui sont inconnus, normal, hein, pas qu'ils s'empoisonnent non plus. C'est un comportement fruit d'évolution qui est très important pour leur survie, avant, maintenant, beaucoup moins. à rejeter aussi les aliments qui sont verts, parce qu'il y a eu beaucoup d'intoxication liée à la verdure dans les anciennes générations, très, très, très anciennes générations. Et donc, du coup, ils ont une tendance à rejeter ces aliments-là, et ce qui va énerver le parent. Et souvent, quand on a un enfant qui a cette phase de néophobie alimentaire, donc d'hypersélectivité alimentaire, on va avoir tendance à vouloir le forcer pour ne pas qu'il prenne, une fois de plus, des mauvaises habitudes. On voit que dans la recherche, c'est l'extrême inverse. Plus on a, donc l'enfant manipulera avec les doigts les aliments, plus il aura un rapport sain à l'alimentation, plus il mangera varié maintenant et dans les tranches d'âge qui vont suivre après. Et surtout, du coup, moins il y aura ce risque de d'hypersélectivité du coup alimentaire. Donc, on voit vraiment l'extrême inverse. Et moins on force un enfant à manger, plus il mangera aussi de manière variée et naturelle par la suite. Donc, en fait, on voit que nos attitudes culturelles françaises vont à l'encontre des recherches sur la question. C'est quand même assez incroyable.
Oui.
D'ailleurs, récemment, j'ai juste un épisode mais intéressant de Super Nanny, un épisode très ancien, hein, d'années, je sais pas, des anciens, quelques années, peut-être 5-6 ans. On voyait l'enfant qui voulait pas manger du poisson. Sur le coup, la Super Nanny, je ne sais pas le nom, disait, voilà, faut punir l'enfant quand il mange pas de poisson. Et en fait, elle le mettait dans sa chambre. L'enfant va dans sa chambre et du coup, il était puni parce qu'il n'a pas voulu manger le poisson. C'est OK. Un enfant qui veut pas goûter, c'est OK. On présente l'aliment, mais sans le forcer. Et en fait, c'est comme ça qu'il aura un meilleur rapport, peut-être, au poisson plus tard. S'il n'a pas le poisson, c'est pas grave non plus.
Oui, parce que plus on va forcer, punir, plus déjà ça va créer aussi des enjeux relationnels autour des repas, des difficultés. Alors que finalement, plus on va accompagner l'enfant à son propre rythme, plus il aura, comme vous dites, une alimentation variée, facile. En tout cas, il n'y aura pas d'enjeux et donc pas de difficultés suscitées par le parent.
Mais oui, surtout il y aura beaucoup moins de risques d'hypersélectivité. C'est ça qu'on craint, en fait. On craint que l'enfant ne mange pas de tout. Et en fait, effectivement, les enfants ont une appétence pour les sucrés et les sucres rapides et les sucres lents, genre les pâtes et les aliments gras comme le beurre et les yaourts. Et il y aura un rejet du verre. C'est pas grave. Ça va se faire naturellement aussi après. Moins il y a de pression, plus généralement, ça se passe bien, en fait. Mais c'est dur pour les parents de se dire ça. Parce que ce moment, ils ont peur, en fait. C'est une vraie peur qu'ils ont.
Il y a une croyance dont on n'a pas parlé, Héloïse, c'est la question de la tétine. où là aussi, on entend beaucoup de choses autour de cette étine. Alors, des enfants qui ont le besoin de succion, et puis voilà, les dentistes qui disent que c'est très mauvais pour les dents. Donc, comment on se positionne par rapport à ça?
Alors, la tétine, je crois que c'est l'un des sujets les plus sensibles et qui mérite d'être traité avec le plus de nuances possible. Les familles, déjà, effectivement, faut savoir que la tétine est décriée chez les ORL, quand même, chez les dentistes, chez quand même un de psy, chez les orthophonistes. Enfin, elle quand même, on voit, en fait, ce qui est embêtant, c'est qu'au niveau de la recherche scientifique, c'est vraiment être hyper objectif. On voit que la tétine augmente le risque de difficultés dans pas mal de domaines. On voit que la recherche, quand même, n'a pas, enfin, dans la recherche scientifique, la tétine n'a vraiment pas la réputation d'être un objet à conseiller aux familles. On voit aussi que c'est un objet qui est très culturel. On a beaucoup de tétines en France, par exemple, où 8 bébés sur 10 de moins de 1 an ont une tétine en bouche. Et cet objet-là est quasi inexistant dans notre culture, par exemple. Donc, on a un rapport qui est culturel à la tétine, qui est très important. Et du côté de la recherche, on voit que la tétine, c'est quand même un objet qui est très décrié. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Effectivement, quand on regarde un peu les méfaits potentiels de la tétine, on voit que la tétine devrait, idéalement, ne pas être proposée à l'enfant quand il parle, même s'il a 6 mois, quand il babille, quand il entend quelqu'un parler, parce que la tétine va venir bloquer la langue de l'enfant. Et on sait qu'une langue bloquée, c'est un enfant qui percevra moins bien les sons de son environnement. Donc, quand on parle à un enfant, ou quand il parle lui-même et babille, ou il parle à un adulte ou à un autre enfant, idéalement, il faudrait pas que la tétine soit en bouche. Et en fait, pour que la tétine ait le moins d'impact possible, il faudrait qu'elle soit proposée à l'enfant juste la nuit, dans les premiers mois de la vie, entre 2 et 4 mois, là où il y a le pic de ce qu'on appelle l'amine. L'amine, c'est quoi? C'est la mort inattendue du nourrisson, parce qu'on sait que la tétine réduit le risque de 2 à 5 de mine. Donc, la tétine a des avantages, par ailleurs, de réduction de la mort inattendue du nourrisson, mais a des inconvénients, par ailleurs, aussi. Donc, c'est une balance bénéfice-risque en permanence. Et c'est que, vraiment, le meilleur usage possible, ce serait la tétine la nuit, uniquement de 2 à 4 mois, pendant le pic de mine, et pas la journée. Et pas idéalement pour l'endormissement aussi, parce que ça crée des fois des béquilles et les enfants n'arrivent plus à s'endormir sans succion. Et donc, la tétine, j'avoue que j'ai pas un rapport hyper positif parce qu'en fait, les données sont au rouge dans pas mal de domaines.
Mmh. Ouais, mais là, vous dites quand même, d'un point de vue de l'âge, c'est quand même très ciblé, 2-4 mois, alors qu'on voit encore énormément d'enfants à 3 ans, 4 ans qui ont encore des tétines.
Et le besoin de succion est créé. En fait, on parle souvent, on dit oui, la tétine est importante parce que l'enfant a un besoin de succion. En fait, l'enfant n'a pas besoin de succion. L'enfant a un réflexe de succion. Il naît avec un réflexe de succion, un réflexe archaïque, naturel. C'est-à-dire que tout ce qui est proche de sa bouche, il va le téter. Dans le ventre de la mère, déjà, il tète son pouce des fois, ou tète autre chose. Donc, le réflexe de succion, lui, est actif dès la naissance. Mais le besoin de succion ne va apparaître que si on répond aux pleurs du bébé par de la succion. Là, on crée un besoin de succion. Si on conditionne aussi l'endormissement de l'enfant à de la succion, là, on crée un besoin de succion. Mais à la base, c'est pas un besoin de succion, c'est vraiment juste un réflexe de succion. Il y a des enfants qui n'ont ni pouce, ni tétine, et qui se régulent par les pleurs naturellement, en fait. Comme quoi, le besoin de succion n'est pas universel, n'est pas non plus endogène à l'enfant, du coup. Il y a beaucoup de mythes autour de cette besoin de succion aussi, ouais.
J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Plein de choses, évidemment, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, là, ce que vous dites sur la différenciation entre réflexe et besoin. Et que ça, c'est quelque chose qu'on entend peu.
Tout à fait. Mais on parle bien de réflexe, c'est pas de besoin. Et dans la recherche, vous verrez jamais le besoin de succion mis en avant. C'est toujours le réflexe de succion qui est présent, en fait.
Oui, et que finalement, dans ce que les parents peuvent interpréter comme un besoin de succion parce qu'il y a des pleurs, c'est comment finalement on va accompagner ces pleurs-là et qu'il y a peut-être plein d'autres manières de le faire, dont le portage et des manières qui, scientifiquement, là, prouvent des bénéfices beaucoup plus sur le long terme. Est-ce que sur toutes ces croyances, il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter, Héloïse, qui vous semblerait qu'on a oublié?
Alors, il y a une croyance qui est très très forte, et je remarque dans mon entourage, enfin, au niveau des familles, des professionnels, c'est la croyance que la punition aide à changer le comportement d'un enfant. Souvent, on dit « punis-le, si tu ne le punis pas, il ne changera pas de comportement ». Enfin, il y a cette idée-là, vous voyez, enfin, c'est la punition. En fait, en France, on a une culture très très forte de la punition. On aime beaucoup ça. Elle est valorisée, c'est partie de notre code social, en fait, d'éducation. Et en fait, on remarque que la punition, ça paraît étonnant, mais la punition, en fait, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la punition, en fait, on voit que plus on punit un enfant...
Il y a beaucoup de parents, excusez-moi Héloïse, je vous coupe, mais il y a beaucoup de parents qui le disent. Mon fils tape, ils ont beau le punir à chaque fois, il continue de taper, par exemple.
Oui, par exemple, 5 parents se rendent compte que ça marche pas, mais pourtant, on continue quand même à le faire, parce qu'on se dit, on sait que c'est quand même une bonne idée. Et en fait, on voit en fait que la meilleure manière de modifier vraiment en profondeur le comportement d'un enfant, c'est pas de le punir, c'est pas de punir le comportement inadapté, mais ça va être de lui montrer comment agir autrement. Genre, par exemple, un enfant Cet exemple-là, je le prends souvent, parce que je le remarque tous les jours, mais imaginons un enfant qui prend des mains, qui arrache des mains, un jouet, des mains d'un autre enfant. Il veut le jouer, logique, hein, comme nous tous, hein, et au lieu de demander, il va arracher des mains le jeu de l'autre enfant. Beaucoup de parents, beaucoup de pros auront ce réflexe de dire, OK, on va punir le fait qu'il ait arraché des mains l'objet. Donc, on va genre le mettre au coin, lui priver de dessert, le punir, en fait. Et en fait, l'idée, c'est pas de punir un comportement inadapté, ça va être plutôt de lui apprendre comment faire autrement. Donc, dès que l'enfant a ce comportement qui va pas, on va lui dire, voilà, ben, au lieu d'avoir ce comportement-là, tu vas avoir ce comportement-là. On va lui montrer, on va dire, regarde, demande à ton frère plutôt de le jouer au lieu de prendre des mains. Et on lui montre, est-ce que tu peux me donner les jouets, s'il te plaît? Et on lui fait un sourire et on dit, regarde, tu vois, il m'a donné le jouet dans mes mains. Parce qu'en fait, ce que je lui ai dit, ça lui a fait plaisir. Fais-le pour voir. L'enfant, une première fois, va pas le faire, troisième fois non plus. Au bout d'un moment, par imitation, si à chaque fois l'adulte lui montre comment agir sur le moment, l'enfant le fera. Et dès que l'enfant le fait, la clé, c'est de le renforcer. Renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'encourager. Ça veut dire, oh, mais t'as vu ce que tu as fait? C'est génial. Regarde, ça a marché. T'as donné le jouet. Vous avez vu? Vous êtes copains. En plus, vous pouvez même jouer ensemble, ça se trouve. T'as vu tout ce que tu as gagné avec ça? Et à force de le faire, à force de renforcer le comportement adapté, l'enfant aura de plus en plus ce comportement-là. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans les recherches aujourd'hui. Donc, la punition ne marche pas, voire elle est contre-productive. Elle va augmenter les conflits, augmenter la frustration de l'enfant et les comportements inadaptés. Et l'inverse, l'apprentissage des comportements adaptés, en les renforçant, on fait vraiment leurs preuves dans les recherches. Et sur le terrain, du coup. Mais c'est pas intuitif sur le moment, parce que nos codes sociaux voient l'inverse de ça une fois de plus.
Ouais, il y a encore, en effet, du travail. Merci beaucoup, Héloïse, pour toutes ces informations et puis nous avoir aidé à décrypter certaines des croyances qu'on peut avoir autour de l'éducation. Vous nous avez bien dit l'importance de s'affranchir des codes sociaux, de la dimension culturelle et de toutes les conventions qui sont quand même très présentes autour de l'éducation en France pour davantage finalement se connecter à l'enfant, à ce qu'il est réellement, et puis pas s'oublier soi aussi en tant que parent, sentir aussi ce qui est bon pour soi, et puis les parents restent les experts de leur enfant, donc généralement ils savent aussi ce qui est bon pour leur enfant.
Mais d'ailleurs, juste un mot pour finir, mais c'est important aussi que tout ce qu'on se dit là, c'est vraiment le monde idéal, c'est-à-dire que c'est la théorie. En tant que parent, on n'arrivera jamais à avoir cette perfection-là. Moi-même, en tant que maman, je dis souvent en conférence, en entrée conférence, je dois appliquer ces principes-là, genre peut-être 50%, 100% du temps dans ma vie de famille, en fait. C'est très difficile, puisqu'il faut être soi-même disponible, les connaissances ne suffisent pas, en fait. Les appliquer, et d'appliquer, c'est très compliqué. Donc, pas de panique. Si le parent n'y arrive pas, s'il arrive que 10% du temps au début, c'est déjà super. Ça sera peut-être 20% le lendemain, et c'est très bien. Mais en tout cas, pas de panique, pas de pression, et ils font ce qu'ils peuvent. Et déjà, s'ils font au mieux, c'est déjà un bon début. Déjà, s'ils font différemment de leur famille, c'est déjà un bon début, je trouve.
Oui, puis déjà de se questionner, même si on n'arrive pas toujours à mettre en pratique, mais le fait de remettre en question, de réfléchir, d'aller chercher de l'information, déjà, ça induit des choses et ça induit des changements parfois, même sans s'en rendre compte.
Mais complètement, c'est déjà, du moment qu'on se pose la question, est-ce qu'on fait bien, c'est déjà énorme. Combien de parents posent cette question-là? C'est déjà énorme.
Ouais, tout à fait. Je recommande souvent des lectures à mes patients, Héloïse. Alors évidemment, on va reconseiller votre livre Pour ou contre les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances scientifiques aux éditions Duno. Est-ce que vous auriez envie de nous recommander autre chose?
Alors moi j'aime bien recommander aussi, alors elle est moins connue sur le terrain au niveau du grand public, mais c'est le livre de Josette Serre. Josette Serre, c'est une ingénieure de recherche au CNRS qui a beaucoup étudié le petit enfant et qui écrit vraiment des livres qui sont vraiment chouettes. Alors j'ai pas de livre en tête.
On mettra toutes les références, vous inquiétez pas Héloïse.
En tout cas ce qui est intéressant c'est d'avoir des professionnels qui s'basent sur des recherches scientifiques avec vraiment des connaissances scientifiques, ça donne des savoirs qui sont du coup plus tangibles et plus légitimes en fait. Ça, c'est vraiment qui est important.
Un très grand merci Héloïse pour tous vos éclairages et tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, conférencière, formatrice et autrice et qu'on peut vous retrouver toute votre actualité et puis tout ce que vous partagez de passionnant sur votre page Instagram et aussi sur votre site internet héloïsejunier.com.
Merci beaucoup, merci à vous.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.